Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. P.D. James, 1920-2014. À l'occasion du festival lyonnais Quai du Polar, et à l'heure où ici et ailleurs, nombreux sont ceux qui voudraient faire ou voir rouler les têtes, Une vie, une œuvre rend hommage à la baronne du crime, P.D. James. Une Anglaise en apparence bien comme il faut qui échappa à la vie terne d'une employée des impôts en imaginant des histoires abominables, celles d'une société rongée par la culpabilité, le malheur et ses démons intérieurs. Voici donc le portrait d'une femme qui plongeait les mains dans les ténèbres et le chaos à la recherche de l'être humain. P.D. James, qui a poussé Humpty Dumpty, un documentaire de Françoise Esteb et Marie-Laure Ciboulet.
Continuait à voir les cadavres, aussi vivement éclairés que s'ils avaient été sur une scène, plus vivement même que lorsqu'ils étaient apparus à ses yeux horrifiés. L'un d'eux avait glissé du lit bas et étroit qui se trouvait à droite de la porte et la regardait, la bouche ouverte, la tête presque détachée du tronc. Elle revit les vaisseaux sectionnés saillant comme des tuyaux annelés du sang coagulé. L'autre était adossé comme une poupée de son contre le mur du fond. Sa tête était tombée en avant, et une grande tache de sang s'était étalée comme un bavoir sur sa poitrine. Son bonnet de laine marron et bleu avait glissé sur le côté, on ne voyait pas son œil droit. Le gauche la lorgnait avec une sorte de terrible omniscience. Ainsi mutilés, les corps semblaient avoir perdu avec leur sang tout ce qui faisait leur humanité, vie, identité, dignité. Ils ne ressemblaient plus à des hommes. Et il y avait du sang partout. Elle-même avait l'impression de nager dans du sang. Celui-ci battait dans ses oreilles, gargouillait dans sa gorge comme du vomi, éclaboussait les rétines de ses yeux fermés. Ces images macabres qu'elle était incapable de chasser flottaient devant elle dans un tourbillon rouge, se dissolvait, se reformait, se dissolvait de nouveau, mais toujours dans du sang. Soudain, elle entendit la voix de Darren, sentit la main de l'enfant la tirer par la manche.
Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again.
P.D. James, qui a poussé Humpty Dumpty, par Françoise Esteb et Marie-Laure Ciboulet.
Humpty Dumpty s'est percé sur un mur. Humpty Dumpty s'est cassé la figure. Ni les chevilles du roi, ni ses chevaux. Plus jamais recoller les morceaux.
Parfois, je me demande à quoi les gens s'attendent quand ils viennent me voir à Londres. Est-ce qu'ils s'attendent à me voir ouvrir la porte avec des lunettes noires, une voix d'outre-tombe ? Est-ce que je les emmène dans une pièce sombre et sinistre ? Parfois, des photographes me demandent de prendre un air mystérieux avec un couteau, un crâne, un poignard. Et je leur dis, vous savez, je suis qu'une brave grand-mère de 78 ans. Je ne peux pas avoir l'air mystérieux.
Sinister and mysterious. And I think actually I write books about death and about
C'est vrai, j'écris des livres sur la mort, le meurtre, mais grâce à Dieu, j'ai une vie très heureuse, très remplie, avec une famille que j'adore. Je suis une femme très chanceuse et très heureuse, mais ça ne m'empêche pas d'écrire des romans noirs.
J'ai rencontré P.D. James, je travaillais à l'époque au British Council, qui sont les services culturels anglais. C'était une petite dame très victorienne d'apparence, qui respirait l'ordre et la bienséance, et qui était fort cordiale. J'ai gardé d'elle un excellent souvenir. Alors, je me permets de lire, pour compléter ma description, le portrait très humoristique, je trouve, que P.D. James fait d'elle-même, tout au moins on croit deviner qu'il s'agit d'elle, dans Un certain goût pour la mort. C'est tout à fait ça. C'est des portraits d'écrivains sur des photos. Les écrivains, ils sont un peu dégueulasses, assez mal attifés, mal rasés, etc. Les femmes, elles, arboraient un air hagard ou agressif, excepté une mémère grassouillette auteur célèbre de romans policiers, qui regardait l'objectif d'un air mélancolique, comme si elle déplorait le côté sanguinaire de son art ou la modicité de son avaloir. C'est tout elle, ça. Il y a à la fois l'argent, le crime, le remords et le goût pour ce qu'elle fait.
Vous avez senti une certaine mélancolie chez elle, Christine Jordis ?
Non, c'était une femme résolue, déterminée, on dirait une battante, malgré son âge, elle n'était déjà pas jeune à l'époque. Mais je trouve, en lisant son œuvre, qu'il y a sinon une mélancolie, tout du moins un très grand sens de la culpabilité, de l'ambiguïté des réactions humaines et de la nature humaine. Elle est très consciente de la complexité de l'être humain et elle est fascinée par ça. Et elle est fascinée aussi par ce qu'il y a de plus mystérieux, à savoir la mort et les raisons qu'on a de donner la mort ou de se la donner.
Vous avez rencontré Phyllis Dorothy James, François Rivière. Alors, comment vous est-elle apparue ?
Le personnage de cette romancière que j'ai connue alors qu'elle était déjà assez célèbre, son personnage était en lui totalement rassurant. Enfin, c'était vraiment l'anglaise souriante, débonnaire, enfin très assez maternelle même, qui semblait pas prendre les choses trop au sérieux. Elle pratiquait cette forme d'humour au quotidien que pratiquent les Anglais, quoi. Et elle-même donc était quelqu'un d'extrêmement positif. Enfin, on sentait une force. Une force de la nature, mais une force qui s'était forgée, si on peut dire, au fil du temps, sûrement. Donc, quelqu'un qui préférait, oui, prendre la vie du bon côté. Bon, il faut dire qu'elle avait réussi magnifiquement. On lui a attribué, comme à beaucoup d'autres romancières, le titre de reine du crime, mais elle avait un côté un peu régalien. Elle était parvenue à régner quand même sur ce monde du roman policier anglais. Je pense que même si elle était en apparence comme ça, très modeste, je pense qu'au fond, elle était assez fière d'occuper ce trône qui faisait d'elle quand même un personnage incontournable. Elle avait détrôné Agatha Christie, même si elle a commencé à publier alors que Christie était encore vivante, mais déjà un peu sur la fin. Et toutes les autres prétendantes, finalement, ont fini par lui laisser la place à elle, qui a eu cette idée extrêmement ingénieuse de renforcer la puissance de l'histoire criminelle, qui est quelque chose déjà d'acquis, par une qualité littéraire qu'on ne pouvait pas lui retirer, puisqu'elle a travaillé énormément pour ça. Elle ne publiait pas tellement, elle écrivait un livre tous les 2 ou 3 ans, mais petit à petit, elle en a écrit à peine 20, c'est pas grand-chose finalement. Sur une carrière assez longue, elle a imposé sa marque.
Hello? I didn't come to detective writing purely by chance.
Ce n'est pas vraiment par hasard que j'ai commencé par écrire des romans policiers, parce que j'ai toujours considéré que c'était un genre excellent et j'ai toujours beaucoup aimé lire des romans policiers. Mais je ne pensais pas que je continuerais dans ce genre-là. J'avais de grandes ambitions littéraires. Ce n'était pas tellement l'argent. Je ne pensais pas que je gagnerais beaucoup d'argent. Et ce n'était pas ce qui m'intéressait. C'était plutôt d'avoir une réputation. Mais plus tard, j'ai découvert que je pouvais continuer dans ce genre de roman et être vraiment une romancière. Cela dit, j'ai écrit 2 romans majeurs qui ne sont pas des romans policiers. L'un s'appelle La meurtrière et l'autre Le fils de l'homme. Et je pense que si j'avais une autre idée de roman qui ne soit pas un roman policier, je m'embarquerais et je l'écrirais.
Elle a fait énormément pour prouver que le roman policier peut être une grande œuvre.
Delphine Singal.
C'est pas juste un roman de plage. On peut écrire des romans policiers, que ce soit de bons romans, tout en respectant une formule, une structure. Elle disait, mais c'est un petit peu comme si on disait, on ne peut pas écrire de la bonne poésie en écrivant des sonnets parce qu'on suit une structure. Ça serait aussi idiot que de dire ça.
P.D. James a lu Agatha Christie quand elle était adolescente, puisqu'elle est née en 1920. Agatha Christie elle-même était née en 1890. Tout le monde lisait en Angleterre Agatha Christie. C'était vraiment le jeu policier par excellence qui venait après toute une vague qui était plutôt victorienne ou de la fin d'époque victorienne, d'auteurs de romans policiers, des pionniers du roman de détection anglais, qui avait été dominé cette génération par Wilkie Collins. Wilkie Collins, qui est un auteur absolument fascinant, un ami de Dickens, qui a créé, au fond, le roman policier psychologique. Billy James lisait Collins, comme elle avait lu Dickens, comme elle a vu lui aussi Jane Austen. Et puis surtout, elle a lu une romancière qui a eu un certain impact, qui était un peu la rivale d'Agatha Christie, qui était Dorothée Sayers. C'est un auteur qui était à la fois universitaire, qui était féministe, qui était quelqu'un qui pouvait plaire justement à une jeune fille dans les années 30, comme P.D. James. On ferait mieux de l'appeler Phyllis d'ailleurs, parce que ses amis l'appelaient, parce que les initiales P.D. Disent pas grand-chose, mais Phyllis James, donc, qui était une grande lectrice.
Mais par contre, Phyllis Dorothy James ne supportait pas qu'on la compare à Agatha Christie.
Alors, je dirais qu'elles sont incomparables dans le sens où, si on veut reprendre les choses, Agatha Christie était quand même incarnait une forme d'écrivain à l'ancienne, très marquée par les valeurs victoriennes, totalement réactionnaire, colonialiste, xénophobe, antisémite. Enfin, je dis ça, je ne vais pas la charger, mais enfin, c'est vrai qu'on retrouve des traces de tout ça dans ses livres. James a voulu vraiment créer quelque chose de nouveau. Enfin, à l'intérieur d'un genre qui était le roman de détection classique, qui, au moment où elle a commencé à publier, au début des années 60, se répétait quand même pas mal, avait tendance même un petit peu à se scléroser. Elle a voulu vraiment faire quelque chose de neuf. Et c'est ce qui a fait son succès, finalement. Dès qu'on a compris qu'elle se mettait, au fond, à renouveler le genre, pas tellement par le style, pas en faisant des effets de style, mais dans le fond.
Le roman policier, c'est la restauration de l'ordre dans le désordre. C'est toujours extrêmement bien structuré et c'est un véhicule important pour dire des choses intéressantes sur la nature humaine et sur la société. Et c'est mon but en tant qu'écrivain.
La complexité de l'être humain, sa plongée dans les abîmes de l'âme humaine, on pourrait dire que c'est son thème principal.
Oui, il le dit d'ailleurs, Dagliesh, enfin son porte-parole d'une certaine façon, qu'il est fasciné par la personnalité humaine. Et c'est ce qu'elle développe tout au long de ses romans. Car bien sûr, la mort est là, et le roman policier donc. Mais la mort n'est jamais qu'un prétexte à aller au bout de l'étude des personnages. Réellement, son thème, c'est la psychologie des personnages.
À ceux qui venaient lui demander des conseils d'écriture, P.D. James disait ceci, « Essayez d'apprendre ce que c'est qu'être humain. » Et je trouve qu'en la lisant, on ressent une très grande humanité. Marianne Bayot.
Oui, je pense que cette humanité est née, que ce soit chez son héros, hein, dans le Glitch, qui n'est pas facile à prononcer, ou chez elle, par le fait d'avoir bien connu la mort très tôt, d'avoir connu l'adversité, d'avoir affronté les meurtrissures de la vie, les douleurs, et peut-être est-ce aussi sa chrétienté, je ne sais, hein, qui font qu'elle a cette ouverture au monde et cette... sensibilité et cette finesse psychologique qui transparaît et qui... Elle a compris qu'on n'était pas tous des blocs ni de certitude, ni de que l'univers était un peu plus complexe et surtout l'humain que cela. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty
had a great fall. Jusqu'à ses 16 ans, l'enfance et l'adolescence de Muriel Godby avaient été des années de détention dans une prison ouverte, une sentence sans appel pour un délit qui ne lui avait jamais été clairement communiqué. Elle avait appris rapidement les lois de la survie, faire profil bas, éviter les ennuis. Le geôlier était son père, ce petit homme maniaque à la démarche arrogante et au sadisme onctueux, presque honteux, qu'il maintenait par prudence dans des limites supportables pour ses victimes. Elle considérait sa mère comme une co-détenue, mais leur infortune commune n'avait engendré ni sympathie ni compassion. Il y avait tant de choses qu'il était préférable de taire. Tant de silences qui, s'ils étaient brisés, pouvait avoir, elles le savaient l'une comme l'autre, des conséquences catastrophiques. Chacune gardait son malheur délicatement enfermé entre ses mains. Chacune conservait ses distances, comme si elle craignait d'être contaminée par les obscurs délits de l'autre.
Delphine Saint-Gall, P.D. James a eu une vie assez tourmentée, une enfance et une jeunesse relativement difficiles. C'est une femme qui s'est battue dans la vie.
Oui, tout à fait. Bon, déjà, il faut la placer en son contexte historique. Donc, elle est née en 1920. La guerre de 14-18 a mis un terme à cette espèce d'atmosphère victorienne, même si les romans d'Agatha Christie font croire que ça existe toujours. Mais à cette époque-là, voilà, on voit la fin de l'époque victorienne. Mais la situation de la condition de la femme n'est pas du tout ce qu'elle peut être de nos jours. Donc, elle est l'aînée d'une fratrie de trois. Et sa famille n'était pas soudée du tout. Le père était plutôt, avait des prétentions intellectuelles, était quelqu'un d'extrêmement strict. Avec sa mère était quelqu'un d'extrêmement maternel, mais pas nécessairement quelqu'un de particulièrement intéressé par tout ce qui était intellectuel. Les parents ont beaucoup, beaucoup voyagé. Son papa demandait énormément de mutations et travaillait pour les impôts. Et donc, elle a fini sa scolarité à Cambridge à 16 ans, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les études pour trois enfants, et les études pour une fille, c'était inutile. Et son père l'a fait entrer justement au service des impôts. Donc, c'est des choses voilà, qu'elle trouvait très pénibles, ces choses contre lesquelles elle a milité. Elle a toujours déclaré qu'il y avait eu des générations gâchées, comme ça, par cette façon de penser. Et c'est un thème absolument récurrent de son œuvre. Le nombre de jeunes filles qui quittent l'école à 16 ans et qui, malgré tout, s'en sortent. Il y en a un dans Meurtre en blouse blanche. Naturellement, dans La proie pour l'ombre, c'est même carrément la détective principale. On a beaucoup de personnages féminins que l'on force à sortir de l'école. Et à côté de ça, ce sont assez souvent des personnages qui, justement, par la force du travail, s'en sortent. Exactement ce qui est arrivé à P.D. James. Effectivement, c'était une enfance où, à la maison, l'ambiance était un petit peu à couteau tiré. Par contre, elle reconnaît qu'elle était très, très heureuse à l'école. Elle avait une espèce de havre de paix à l'école. Elle aimait raconter des histoires. Donc, le fait d'avoir un petit frère et une petite sœur, le petit frère et la petite sœur ont été les premiers lecteurs des aventures de la jeune P.D. James. Donc, elle s'est toujours dit qu'elle voulait écrire.
À 15 ans, d'ailleurs, elle a écrit une nouvelle qui a été primée dans son école.
Primée dans son école, oui. Bon, donc elle s'est toujours dit, voilà, je veux écrire, je veux écrire. Je pense qu'elle a très tôt pensé aussi au genre policier, parce qu'elle raconte toujours, c'est un peu devenu la légende, c'est à propos de Humpty Dumpty, donc de l'autre côté du miroir, donc la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Elle demandait, est-ce que Humpty Dumpty est vraiment tombé du mur ou est-ce qu'on l'a poussé ?
Humpty Dumpty s'est passé sur un mur. Humpty Dumpty s'est cassé la figure. Ni les chevilles du roi, ni ses chevaux. On ne peut jamais recoller les morceaux. Mais qui a tenu Humpty Dumpty ?
Mais qui a poussé Humpty Dumpty du mur pour le faire tomber ? Elle a eu une enfance difficile déjà. Elle est née dans un milieu qui était le milieu petit bourgeois près de Cambridge. Et son père était quelqu'un de très rigide, qu'elle n'a jamais aimé, au fond, et qui lui, n'aimait pas beaucoup.
Qui lui faisait peur.
Qui lui faisait même très peur, oui, voilà. Et donc, elle était un peu déjà cernée par le drame, si on peut dire, dans son enfance. Elle s'est réfugiée dans la religion et la lecture. Elle dévorait, si on peut appeler ça comme ça, la Bible du roi James. Enfin, elle était un peu confite en dévotion, même si c'est quelque chose qui n'a pas eu d'effet, après, dans sa vie. Parce qu'au fond, elle était à la fois religieuse et assez laïque, enfin, dans sa manière d'être. Et donc, dès qu'elle a pu, elle a fui le milieu dans lequel elle était née. Mais elle laisse derrière elle un univers qui ne connaîtra jamais la félicité dont elle rêvait peut-être quand elle était petite fille et qu'elle lisait la Bible du roi James.
Elle s'est retrouvée très jeune à devoir travailler, mariée relativement jeune aussi.
Un médecin militaire.
Un médecin militaire. Et donc, naturellement, il, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il est obligé de partir. Alors, dans la mesure, il est revenu traumatisé, probablement schizophrène. Beaucoup de gens pensent qu'il a été sur le front, qu'il a vu des choses horribles. Ça n'est pas le cas. Dans la mesure où il n'a pas été sur le front, il est revenu sans la moindre pension. Donc, en fait, quelque part, à partir de l'âge de 16 ans, elle s'est retrouvée à devoir travailler non-stop. Donc, tout d'abord aux impôts. Puis, elle est rentrée dans le système hospitalier britannique. Elle s'est retrouvée très rapidement à devoir rapporter le seul salaire et puis avec ses deux jeunes enfants à charge. Et donc, pour améliorer la situation, elle prenait des cours le soir. Donc, écrire, ce n'était pas facile. Il lui fallait du temps pour l'écriture, pour ce qui était important pour elle. Puis son mari est décédé en 64. Bon. Donc, en fait, autour de ses 40 ans, un jour, elle a décidé, voilà, il n'y aura jamais un bon moment pour écrire. Si je ne le fais pas, eh ben, ça ne se passera jamais. Donc, son premier livre, en fait, elle l'a sorti en 62, elle est née en 1920, donc elle avait 42 ans, pour un visage couvert.
Elle se levait à 5h du matin, là, il fallait qu'elle élève ses filles, donc elle a travaillé, elle a été au départ, elle était littéralement assistante sociale, enfin, elle suivait des cours en plus, elle a franchi des étapes dans le civil service, comme on dit en Angleterre, c'est enfin le fonctionnariat, finalement, elle était fonctionnaire. Mais justement, sa vie professionnelle, bon, qui l'éloignait quand même aussi du marasme qu'aurait pu être sa vie, si elle s'était pas battue, a fait qu'elle a justement, elle a côtoyé des tas de milieux, la police notamment, puisqu'elle a travaillé pour la police un moment, la radio, elle a travaillé pour la BBC, et c'est ce qui explique aussi qu'après, elle n'a jamais refusé toutes sortes de promotions, enfin de titres un peu honorifiques, qui en aurait fait fuir d'autres, mais qui faisait qu'elle était au service. Enfin, c'est quelqu'un qui était au service de son pays.
En fait, c'est une femme qui a vécu...
Marianne Payot.
Les trois quarts de sa vie toute seule, parce que j'imagine que ses enfants, à l'âge de 20-24 ans, ont dû partir du foyer, et comme elle ne s'est jamais remariée. Voilà, alors, d'où peut-être la suractivité, parce que donc, elle a une vie extrêmement complète, elle démultipliait les missions auprès d'associations, etc., etc. Donc, je pense que c'est aussi une manière d'oublier sa solitude que de se perdre dans le travail, hein, et dans la voilà, dans l'espèce d'activisme forcené, parce que cette solitude finalement c'est une partie intrinsèque de sa vie, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elle a travaillé jusqu'au bout, hein, mais elle a eu la chance parce qu'elle avait toute sa tête et pensait qu'à 90 ans et quelques, elle a encore plume à la main en train d'écrire des histoires folles. C'est quand même fou pour le coup, je trouve.
En quoi Phyllis Ruthie James bouscule-t-elle les conventions du genre, François Rivière ?
James s'est mise à parler de choses dont on parlait assez peu dans le roman policier. Et tout ça en empruntant à son parcours, à sa vie, à ce qu'elle avait vécu, et notamment au drame, au grand drame de sa vie, si on peut dire, c'est la maladie... psychiatrique de son mari qui passait de clinique psychiatrique en asile d'aliénés, et la pauvre Phyllis veillait sur lui comme elle pouvait. Elle a connu à travers lui l'enfer de ce genre d'institution, et dans un de ses livres notamment, elle en parle. Ça revient assez souvent d'ailleurs. Tout ce qu'elle a vécu a nourri complètement son travail de romancière, et c'est ce qui touche les lecteurs, je pense, quand on la lit, c'est qu'on sent au fond qu'elle parle de choses qu'elle connaît, des choses qui l'ont marquée, et elle n'a pas peur d'entrer dans le vif du sujet quand elle situe, par exemple, un de ses romans dans une école d'infirmière. Bon, c'est quelque chose qu'elle a connu. Quand elle parle donc du milieu psychiatrique, c'est aussi quelque chose qu'elle connaît. La religion l'inspire pas mal. Elle était très religieuse quand elle était enfant et jeune fille.
Bon, évidemment, elle a une vision très...
Françoise du Sorbier.
Dire, sans illusion, là aussi, des univers professionnels qu'elle décrit, que ce soit l'univers médical ou l'univers de la chirurgie esthétique, par exemple une mort esthétique, que ce soit les prêtres de meurtre en soutane, qui sont déchirés par les tendances qui déchirent elles aussi l'Église anglicane, c'est-à-dire le conservatisme, et puis le désir de rénover la liturgie et l'Église. Bon,
on voit tout de suite de quel côté penchent les préférences de P.D. James. Vous avez toujours des... Comment dire, c'est cette espèce de dichotomie et de tension, de déchirement entre des tendances opposées. Mais enfin, c'est la façon dont elle décrit ses univers professionnels est assez pessimiste.
Ce qu'on voit sans cesse dans ses romans, c'est une envie de critiquer quand même la société dans laquelle elle vit. Elle était conservatrice, certes, mais elle était extrêmement lucide, elle était extrêmement sévère par rapport à la manière dont fonctionnait son pays, enfin, dont justement les corps constitués, elle les observait à la loupe et elle ratait personne. D'elle-même, elle montre un petit peu qu'elle n'est pas dupe, justement, du fonctionnement des corps constitués, de ces milieux clos. Elle les attaque un peu par surprise, enfin, à sa manière classique, faussement innocente. Elle a un peu, elle, été la pionnière dans ce domaine, en fait.
Elle veut absolument embrasser et décrire toute une société.
Christine Jordis.
À travers ses personnages et des décors, qu'elle analyse bribe par bribe, qu'elle analyse au point de faire comme une mosaïque de ce qu'est la société de son époque. Et c'est absolument exhaustif. On a l'impression d'un Balzac. C'est quelqu'un qui est fasciné par la nature humaine. Et alors, elle le fait, elle la révèle, cette nature humaine, à travers les décors qu'elle dépeint, à travers les quartiers de Londres. Donc il y a une très 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 grande minutie, une très grande soin du détail. On pourrait dire presque trop, car rien n'est laissé au hasard. Tout est signe, tout est révélateur. Elle entre quelque part, ou plutôt il, vous voyez, je finis par les confondre, il d'Aglièche entre quelque part, et sans même se donner beaucoup de peine, il note tous les détails, la bibliothèque, les livres, ce qui peut révéler la nature de quelqu'un dans ses habitudes de vie.
Je l'ai rencontrée en 1997 et elle m'expliquait effectivement que
Delphine Singal,
ses romans surgissaient toujours d'un lieu existant ou imaginaire, parce qu'effectivement elle a placé beaucoup de décors très originaux dans des endroits que tout le monde connaît. Mais ce décor-là n'existe pas. Donc, par exemple, dans Péché originel, il n'y a pas de palais vénitien sur les bords de la Tamise à Londres. Non, non, pas du tout. Donc, effectivement, c'était ça le point de départ. Et ensuite, il y a une psychologie des personnages.
Entre les fenêtres, placées sur d'étranges encorbellements d'un style plus gothique que néoclassique, on distinguait des cariatides de pierre dont les lignes fluides, soulignées par les piliers d'angle, typiquement soanien, attirait le regard vers le haut. L'œil montait vers les fenêtres carrées du troisième étage, le revêtement en briques du quatrième, et enfin la balustrade de pierre avec sa rangée de coquilles qui rappelait les courbes des fenêtres inférieures. Alors qu'il était là à contempler la maison comme s'il hésitait à en violer le calme, il eut un moment d'extraordinaire silence, pendant lequel même le grondement sourd de la circulation dans l'avenue cessa. Au même instant, deux images, la façade luisante de la demeure et la pièce poussiéreuse éclaboussée de sang de Paddington, lui parurent comme suspendues dans le temps. Puis elles fusionnèrent. Les pierres se tachèrent de rouge, les cariatides perdirent du sang. Ensuite, les feux de signalisation lâchèrent le flot de voitures, le temps reprit son cours, et la maison se dressa devant lui, intacte, dans son pur et pâle silence.
Elle a quand même une très grande précision dans les descriptions qui se met au service de l'intrigue, évidemment.
Odile Demange.
Parce que tout est très fouillé, jusque dans le moindre détail. On a beaucoup de peintures d'atmosphère, de décors, qui aident à mieux cerner les personnages aussi, qui enrichissent la psychologie des personnages, aussi bien leurs vêtements, ces femmes un peu robustes avec ce que les Anglais appellent des sensible shoes, des chaussures raisonnables, c'est-à-dire confortables. Beaucoup de personnages assez terriens, comme ça. Et dans son écriture aussi, on a ce côté terrien. Ces quatre derniers romans, en tout cas, se passent en automne. Et on a beaucoup de peintures de brume, de vent, de pluie, enfin bon, tout ce climat britannique qu'on peut imaginer, mais qui prête une atmosphère tout à fait singulière à ces intrigues. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que P.D. James était morte à l'automne aussi. Et comme ses victimes, en fait, ça m'a fait un peu drôle.
P.J. James restitue les parfums, très souvent.
Oui, c'est vrai.
Les odeurs.
Oui, oui c'est ça. C'est beaucoup de parfums naturels, justement, de ces bois humides, avec l'odeur de l'humus qui remonte, les feuilles mortes, ouais, ce climat d'automne.
Les sons également sont très importants dans ces livres. On entend notamment le bruit de la mer.
Oui, on entend le bruit de la mer, on entend le bruit du vent, on entend le crépitement des bûches dans la cheminée, etc. Oui, mais tout ça, c'est cette peinture d'ambiance, d'atmosphère qui permet de se plonger dans le livre vraiment et d'avoir l'impression de vivre cette histoire, d'être présent vraiment. Il y a des détails aussi qui sont souvent... Enfin bon, là, ceux que j'ai retenus sont plus visuels qu'auditifs, mais on a des images de ces momies de boutons de rose, par exemple, qui ont été effectivement... qui sont pas arrivées à éclore parce qu'il s'est mis à faire trop froid. Ou dans un autre livre, elle parle des pétales d'hortensia qui ressemblent à du papier jauni en cette saison. Ce sont des images qui sont vraiment précises et tellement justes que... qu'on voit très bien ce qu'elle veut dire.
Quel est le rôle de la nature dans son œuvre d'Ile-de-Mange ?
Ça fait partie de l'atmosphère, mais c'est aussi un peu une puissance hostile. C'est pas toujours quelque chose de bienveillant, justement, là. On a beaucoup, effectivement, de brume froide, de vent qui vous cingle le visage, d'averses brutales, etc. C'est pas la douceur du printemps, il y a un côté un petit peu hostile, oui.
Aussi mystérieusement qu'elle était tombée, la brume commença alors à se dissiper. Des voiles frêles et légers s'étirèrent devant le phare, se rassemblèrent puis s'effilochèrent. Progressivement, formes et couleurs réapparurent. Le paysage mystérieux et intangible redevint familier et réel. C'est à ce moment qu'il le vit. Son cœur fit un bond dans sa poitrine et se mit à battre violemment, ébranlant son corps tout entier. Sans doute hurla-t-il, mais il n'entendit rien que le cri perçant et sauvage d'une unique mouette. Peu à peu, l'horreur surgit, dissimulée d'abord derrière un mince voile de brume qui dérivait, puis avec une clarté sans phare. Les couleurs revinrent, plus vives que dans son souvenir, les murs étincelants, la haute lanterne rouge entourée d'un garde-fou blanc, l'étendue bleue de la mer, le ciel limpide, comme par un jour d'été.
Et ce que fait James, justement, c'est d'un seul coup placé au milieu d'un décor comme ça, naturel, plutôt agréable, un cadavre où on précipitait justement le crime, là où on ne l'attend pas forcément.
Et tout en haut, contre la blancheur du phare, un corps suspendu. Le fil bleu et rouge de la corde d'escalade accroché à la balustrade. Le cou marbré et étiré tel celui d'une dinde déplumée. La tête, de dimension grotesque, inclinée sur le côté. Les mains, paumes écartées, comme dans une parodie de bénédiction.
Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall.
Humpty Dumpty s'est cassé la tête. Et Humpty Dumpty s'est cassé les joues. Humpty Dumpty s'est cassé la bouche. Les moutons, la tête, les cheveux.
P.D. James a aussi une fascination plus viscérale, moins cérébrale, me semble-t-il, pour la mort. Elle a la fascination du cadavre, la mort dans tous ses états, pas seulement le fait de dire que quelqu'un est mort, mais la réalité physique et la présence de la mort. Et ça, je pense, oui, qu'elle devait l'avoir.
Elle s'est cassé l'os, la squelette, et il était mort. Mais qui a-t-il Dumpty Dumpty ?
Elle disait qu'elle voulait réintroduire de l'ordre dans le désordre.
Oui. Elle voulait réintroduire de l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire qu'effectivement, le crime, c'est le désordre absolu.
François Rivière.
Découvrir dans une église, comme c'est le cas dans Un certain goût pour la mort, deux cadavres dans une mare de sang, ça fait désordre. On est dans un décor qui, a priori, est romanesque et rassurant, puis d'un seul coup arrive comme un coup de cymbale dans le silence de la nef, cette vision épouvantable du cadavre. Et les cadavres, chez P.D. James, ne sont pas des cadavres comme on en trouve dans les romans d'Agatha Christie, de Marjorie Allingham, ou même de Dorothy Sayers, qui sont des espèces de baudruches. On ne montre pas trop le sang, on ne parle pas trop de l'acte criminel. On dépose un cadavre pour, je dirais presque, pour jouer avec, enfin, pendant tout un livre. Là, c'est différent. Là, c'est vraiment le désordre qui s'installe et il va falloir remettre de l'ordre là-dedans. D'où ce personnage, sûrement, de Dalglish, qui est donc poète à 16 heures, enfin, qui est justement un personnage étrange, au fond, quoi. Il est là pour remettre de l'ordre et en même temps, il se livre à des exercices lyriques, poétiques, qui le purgent peut-être un peu de l'horreur, quoi, au fond.
Alors, Adam Dalglish, c'est mon grand préféré. Je dois confesser un faible pour ce détective. D'abord, il est beau.
Françoise Dussorbier.
Voilà, en tout cas, il est grand, il est brun, il a une grande mèche, il est aristocratique. D'allure, même s'il ne l'est pas de naissance, il est extrêmement cultivé, puisqu'il écrit des poèmes, il a une formation, je crois, d'historien, il a fait des études d'histoire et de littérature, des études doubles comme souvent en Angleterre, et il est évidemment, dans sa vie personnelle, malheureux, puisqu'il a perdu sa femme, donc c'est un veuf, qui est très disponible, bien évidemment, pour son travail, et qui trouve une sorte d'équilibre entre ce travail très prenant et la littérature, puisqu'il il écrit et il est poète. Donc c'est quelqu'un qui est très polyvalent et qui est profondément humain, qui est capable d'une grande sympathie vis-à-vis des personnages qu'il rencontre, qui a une écoute tout à fait remarquable et qui sait écouter ses doutes et se méfier des apparences. Et justement, le doute, chez lui, est un moteur extrêmement efficace. Il écoute ses doutes beaucoup plus que les certitudes apportées en apparence par les preuves. C'est quelqu'un qui est capable de mettre en doute les preuves. Et donc, ça va quand même assez loin.
Je ne veux pas entendre ça, pensa Dalglish. Je ne veux pas qu'ils me parlent de leur chagrin. C'était aussi ce que lui avait dit l'obstétricien quand il était allé regarder une dernière fois sa femme avec son nouveau-né niché au creux du bras, tous deux reposant paisiblement dans le mystérieux néant de la mort. Une chance sur un million. Comme si on pouvait tirer quelque consolation, voire quelque fierté, du fait que le destin avait choisi votre famille pour illustrer à titre d'exemple les statistiques arbitraires de la faillibilité humaine. Soudain, le bourdonnement de la mouche devint insupportable.
Il y a une chose assez touchante, je trouve, c'est les mots qu'elle applique à son détective. Car son détective, évidemment, il est confronté à la mort et à la souffrance. Et on se dit, est-ce qu'il est parfaitement cynique, parfaitement froid, parfaitement habitué à la souffrance des autres ? Il y a toujours cette question de la souffrance. Il a à lutter en permanence contre son empathie, et justement contre la souffrance de l'autre dans la façon dont elle vous atteint. Et si je me disais que tout a des limites, 20 ans passés à exploiter la faiblesse des gens contre eux-mêmes, 20 ans passés à essayer de rester détaché, si je démissionnais, que deviendrais-je ? Voilà. Il ne sait pas, au fond, que faire de lui-même, mais il a un sentiment de lassitude devant la souffrance des autres, et aussi de culpabilité d'un métier qui le force à pénétrer, à forcer cette souffrance pour découvrir une vérité.
À violer l'intimité des êtres.
Oui, c'est ça. On la viole de toutes les façons. Et chacun, que ce soit dans la police ou dans la médecine, qui est quand même un horrible métier si on y pense, surtout la médecine légiste, viole quelque chose d'essentiellement intime.
Suivait une longue liste des organes de Venetia Aldridge. Système nerveux central, respiratoire, cardiovasculaire, estomac, œsophage, intestin. Les mots apparaissaient les uns après les autres, toujours suivis du commentaire « normal ». suivait les poids des organes, ce qui n'avait pas une grande importance pour le déroulement de l'enquête, mais les chiffres, indiqués sans commentaire, se superposaient dans l'esprit de Dalglish, à l'image de l'assistant de Miles Kynaston, portant les organes sur la balance de ses mains gantées et sanglantes, tel un boucher pesant des abats.
Elle nous présente un monde chaotique, une société qui se défait.
Christine Jordis.
Un monde où les êtres humains sont plongés dans la détresse, le manque de sens, l'angoisse, évidemment. Et qu'existe-t-il contre l'angoisse? Le désir d'ordre, l'ordre qu'on peut opposer à l'angoisse. Et P.D. James est quelqu'un qui, à mon avis, un farouche défenseur de l'ordre. Et qui met l'ordre? La police, les détectives. En essayant de comprendre, de même que la poésie, qui est une mise en mots, est une forme d'ordre. Ça consiste à cerner la réalité, à empêcher qu'elle ne s'évapore, qu'elle ne s'éloigne, qu'elle ne s'égare dans tous les sens. On la ramène à des mots.
Le personnage d'Adam Dalglish est le, je pense que c'est vraiment le porte-parole de l'auteur. Enfin, là, elle n'en fait pas justement un espèce de personnage un peu caricatural, comme c'est le cas souvent des détectives de romans qui découvrent des situations, enfin, qui les dépassent, et du coup, on est dans une espèce de comédie policière, souvent, quand même. Alors que chez elle, non, c'est plutôt la tragédie, c'est presque la tragédie antique.
Pour moi, une bonne romancière s'intéresse à ses personnages. Ce qui me fascine dans le roman policier, c'est que l'on plonge les personnages dans le traumatisme d'une enquête criminelle. Une enquête criminelle fait tomber toutes les défenses. Vous voyez les gens non pas comme ils voudraient qu'on les voit, mais peut-être tels qu'ils sont vraiment. Et c'est ça qui est fascinant pour une romancière.
L'univers de P.D. James n'est pas du tout un univers en noir et blanc. C'est pas un univers manichéen. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Les meurtriers ne sont pas toujours les méchants et les victimes ne sont pas toujours les bons.
Elle écrit... Je crois que c'est dans la salle des meurtres, l'assassinat pouvait surprendre jusqu'au meurtrier lui-même. C'est-à-dire que c'était pas inscrit, quoi. C'était pas, ce sont pas des serial killers, des psychopathes, des gens comme ça. Ce sont des êtres humains ordinaires qui, un beau jour, ne voient que ça comme solution.
Vous avez des victimes extrêmement antipathiques chez P.D. James, dont on comprend très bien que... elle s'est tirée tellement sur la patience des meurtriers qu'elle s'est finie par... se faire tuer. Et il y a des meurtriers qui sont au contraire extrêmement sympathiques. Cette espèce d'hésitation, de doute entre le bien et le mal, c'est peut-être son aspect le plus intéressant, en tout cas pour moi, par rapport au roman policier traditionnel. C'est ces personnages qui sont des personnages profondément humains, dont elle nous montre toutes les facettes ou un grand nombre de facettes, parce que même les personnages secondaires sont extrêmement fouillés chez P.D. James. C'est un écrivain qui est souvent narrateur omniscient, qui se projette dans tous ses personnages les uns après les autres, et elle nous donne donc une image très complexe de tous les personnages qu'elle met en scène.
Dans une mort esthétique, on a cette journaliste qui sera assassinée.
Odile Demange.
Et qui, effectivement, cause beaucoup de tort à des gens. Elle est spécialiste des scandales et elle mourra à cause de ça. Parce qu'effectivement, elle a profondément blessé la personne qui va l'assassiner. Elle fait du mal sans le vouloir pour faire un bon article. Il y a ce côté impitoyable que P.D. James condamne, je crois, très, très fortement, puisqu'elle fait mourir ces coupables-là, parce qu'ils sont quand même coupables aussi, en même temps que victimes.
Donc c'est une atmosphère de clair-obscur chez P.D. James.
Oui, oui, il n'y a pas de personnage tranché, tout le monde est humain, simplement humain. Cette journaliste d'investigation spécialisée dans les scandales, elle s'est fait opérer et elle s'est réveillée une première fois de son opération, bon, évidemment fatiguée, encore un petit peu sous l'effet de l'anesthésie. Et puis, bon, ensuite, le soir est tombé, elle est allée se coucher, et elle se réveille dans la nuit. Et soudain, dans une accalmie du vent, elle perçut un bruit, si ténu que seul le silence de la chambre pouvait l'avoir rendu audible. Elle sentit, plus qu'elle n'entendit, une présence qui se déplaçait dans le salon. D'abord, dans sa demi-somnolence, elle n'éprouva aucune crainte, rien qu'une vague curiosité. Sans doute était-ce le petit matin. Il était peut-être déjà 7 heures et on lui apportait son thé. Il y eut ensuite un autre bruit, un léger grincement, rien de plus, mais très net. Quelqu'un refermait la porte de la chambre à coucher. La curiosité s'effaça devant la première étreinte froide de l'appréhension. Personne ne parla. Personne n'alluma. Elle essaya de demander d'une voix cassée, étouffée par le pansement. « Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qui est là ?» Il n'y eut pas de réponse. Elle sut alors avec certitude que ce n'était pas une visite amicale, qu'elle était en présence de quelqu'un ou de quelque chose dont les intentions étaient malveillantes. Elle était allongée, raide dans son lit, quand la pâle silhouette, vêtue de blanc et masquée, s'approcha de son chevet. Des bras se déplacèrent au-dessus de sa tête, comme dans un geste rituel, une parodie obscène de bénédiction. Avec effort, elle chercha à se redresser. Le poids des draps semblait soudain la plaquer sur le lit, et tendit la main pour attraper la sonnette et l'olive de la lampe. Le cordon de la sonnette n'était pas là. Sa main trouva l'interrupteur et l'enfonça. L'obscurité resta entière. Dans le noir, elle distinguait vaguement une figure blanche, une tête couverte, un visage masqué. Une main passa sur le carreau de la fenêtre entrouverte, mais ce n'était pas une main humaine. Aucune goutte de sang n'avait jamais coulé dans ses veines sans squelette. Elle se dit qu'il s'agissait sans doute d'une hallucination provoquée par son état de demi-conscience. Et pendant un moment béni, elle regarda fixement devant elle, toute terreur dissipée, attendant que la vision se dissipe dans les ténèbres environnantes. Et puis, il n'y eut plus d'espoir. La silhouette était à son chevet, le regard posé sur elle. Elle ne discernait qu'une figure blanche informe. Les yeux rivés sur les siens étaient peut-être impitoyables, mais elle ne distinguait qu'une fente noire. Elle entendit des mots prononcés tout bas, dont elle ne comprit pas le sens. Avec effort, elle souleva la tête de l'oreiller et essaya d'émettre une protestation. Immédiatement, le temps fut suspendu. Et dans un tourbillon de terreur, elle n'eut conscience que d'une odeur, la très faible odeur du lin amidonné. Surgissant de l'obscurité, un visage s'inclina vers elle. C'était le visage de son père. Pas tel qu'elle en conservait la mémoire depuis plus de 30 ans, mais celui qu'elle avait brièvement connu dans sa petite enfance, jeune, heureux, se penchant sur son lit. Ses membres semblaient prisonniers d'une cuirasse de fer, mais elle réussit en tremblant à dresser la main droite et à effleurer le pansement qui recouvrait sa cicatrice. Elle sut que c'était la mort. Et cette conscience s'accompagna d'une paix inattendue, d'un abandon. Et puis la main vigoureuse, sans peau inhumaine, se referma sur sa gorge, l'obligeant à renverser sa tête contre l'oreiller. L'apparition jeta tout son poids en avant. Elle refusa de fermer les yeux devant la mort, mais elle ne lutta pas. L'obscurité de la chambre se referma sur elle et devint la noirceur ultime dans laquelle toute sensation s'effaça.
P.T. James met en scène tous les tabous. On trouve l'inceste, alors les crimes évidemment, oui. L'inceste, des scènes qui sont proches de la nécrophilie, enfin...
Oui, donc il y a des éléments, effectivement...
Delphine
donc,
Saint-Gall.
Extrêmement dérangeant. Alors, probablement le plus dérangeant, c'est sûrement effectivement le roman La Meurtrière, hein, qui est publié en 1980 sous le titre Innocent Blood. Une jeune fille veut retrouver sa mère qui sort de prison, son père est mort en prison, suite à l'assassinat d'une petite fille qu'il avait enlevée et violée. L'enquête menée par leur fille va faire surgir des éléments très dérangeants par rapport au rôle de la mère là-dedans, parce qu'en fait, c'est la mère qui a tué la petite fille. La fin finit sur une histoire effectivement d'inceste un peu compliquée. Donc oui, on est vraiment dans des personnages extrêmement noirs. Et peut-être que ce qui est le plus surprenant... Alors est-ce, moi, j'irais jusqu'à dire que c'est peut-être du féminisme, du vrai... On n'a pas systématiquement un affreux meurtrier masculin, voilà. Donc les femmes sont en nombre égal au point de vue. Enfin, il y a autant de femmes qui tuent dans l'œuvre de P.T. James que d'hommes. Et elles utilisent des méthodes relativement complexes, je trouve. Enfin, c'est pas le coup de fusil tranquille, voilà. En particulier dans Sans les mains, le premier meurtre est assez tordu. Voilà. Assassiner quelqu'un par claustrophobie, il faut y penser.
Est-ce qu'il y a du sadisme dans l'œuvre de P.T. James?
Pas vraiment. Enfin, dans celui-là, oui, parce que la femme assassin dans Sans les mains, donc Sylvia, c'est la personne handicapée qui en a tellement vu, on s'est tellement moqué d'elle, qu'elle décide de faire payer tout le monde. Voilà. Ce qui peut paraître dérangeant peut-être dans l'œuvre de P.T. James, c'est qu'il y a parfois effectivement des descriptions de meurtres, en particulier dans Devices and Desires, donc par action et omission, où le roman commence par un meurtre. Je ne dirais pas que c'est sadique, mais par contre éventuellement voyeur, parce qu'effectivement, on assiste avec une focalisation interne au meurtre d'une jeune fille de 15 ans. ce qui est assez dérangeant.
Il y a une contagion du mal. Et je ne pense pas que P.D. James ait jamais prétendu que l'ordre pouvait l'emporter sur la déraison.
Ni la justice, d'ailleurs.
Ni la justice, d'ailleurs. Il n'y a pas de justice et elle le constate, effectivement. Mais son effort et l'effort de ses personnages, comme Kate Miskin et Dalgliesh, c'est tout de même d'introduire l'ordre là où il n'y en avait pas. Alors qu'ils ne triomphent pas sur toute la ligne, c'est bien normal, puisque eux-mêmes sont travaillés par l'idée de désordre et de souffrance, et que la souffrance, on ne peut pas la nier, elle est là partout et tout le temps. L'innocence n'existe pas, mais ça, elle a bien raison, l'innocence n'existe pas.
À partir du moment où on a été touché par un meurtre, le meurtre est contaminant. Il n'y a pas un status quo ante. Les personnes ont changé. Pour le mieux, rarement. En général, non, c'est épouvantable. Il suffit de voir un certain goût pour la mort. Ce qui se passe pour la plupart des personnages, c'est épouvantable. Il y a des vies détruites, des solitudes aggravées, alors que déjà, dès le départ, c'était quand même relativement triste. Mais aussi les lieux. Donc, à partir du moment où un lieu a été contaminé par le meurtre, il change. À partir du moment où une personne a été contaminée par un meurtre, elle change.
Ne subsisterait que le vide, l'obscurité et l'odeur de la mort, sauf dans la chapelle de la Sainte Vierge où la veilleuse continuerait à brûler devant le Saint-Sacrement. Allait-elle perdre cela aussi ? Se demanda-t-elle. Était-ce cela que le meurtre faisait aux innocents ? Leur enlever ce qu'ils aimaient, remplir leurs esprits de terreur, les laisser seuls et dépouillés sous un ciel incandescent ?
Cette femme qui n'arrêtait pas de traiter de crimes les plus horribles, d'énigmes, etc., et en fait était une grande peureuse. Et elle m'expliquait, et c'est vrai que dès qu'elle sortait de chez elle, et pourtant c'est, s'il y a des quartiers chics dans Londres, c'est bien celui-là, et il y en a beaucoup, elle fermait, bon c'est vrai qu'il y avait des rez-de-chaussée, elle fermait tous ses volets, elle se barricadait en quelque sorte, m'expliquant que oui, le danger était quand même dans la rue, et en tout cas pouvait venir de partout. À Londres, dans sa belle maison, qui était tout en hauteur, il y avait plusieurs étages, dès qu'on parlait de quelque chose, tout d'un coup, elle voulait absolument me montrer, je ne sais pas, un tableau, une photo, etc. Donc, elle sautait comme si elle avait 20 ans, telle la gazelle, et elle allait chercher la photo pour me la montrer. Voilà. Il y avait ce côté aussi un peu virevoltante, amusante, un peu... surexcité, ça serait exagéré, mais assez détonnant hein, par rapport à l'image d'une baronesse qui, on imaginait, s'habiller avec son petit tailleur rose pour aller à la Chambre des Lords, suivre les choses politiques.
En 1991, elle a été anoblie. Elle est devenue baronne de Holland Park, titre totalement fabriqué, sur mesure. Elle a pu enfin tout de même profiter de l'énorme succès qui lui était dévolue. Elle en a vraiment profité. Elle a même peut-être un peu abusé de tout ça. Elle se puisait, je crois, en tournée de conférences, de signatures des deux côtés de l'Atlantique. Elle adorait affronter les vagues de l'Atlantique en plein hiver. Elle m'a raconté un jour que le bateau, elle était sur le Queen Elizabeth. Elle avait connu une tempête formidable. Elle était aux anges, en fait. Rien ne pouvait l'arrêter, d'une certaine manière. Elle avait bravé le pire, donc tout ce qui pouvait lui arriver, ça pouvait être que des choses qui la confortaient dans l'idée qu'elle avait vaincu l'adversité, ce qui est quand même merveilleux. Et au fond, elle a attendu longtemps avant de pouvoir enfin rendre hommage à l'auteur qu'elle aimait par-dessus tout, qui était Jane Austen.
La mort s'invite à Pemberley est le dernier ouvrage de P.D. James, Françoise du Sorbier, et c'est un ouvrage qui est la suite, en fait, d'Orgueil et préjugés de Jane Austen, que P.D. James lisait beaucoup et qu'elle appréciait beaucoup.
Oui, en effet, c'est un ouvrage qui est un peu surprenant parce que on est évidemment plus du tout dans le même siècle et plus du tout avec les mêmes procédés policiers. On voit qu'elle a beaucoup fréquenté Jane Austen parce qu'il y a des échos au niveau de l'écriture, dans les dialogues, des tics de langage des personnages, etc. Mais elle a repris des situations qui sont finalement des situations qu'elle exploite elle-même dans ses romans, c'est-à-dire l'univers clos, puisque là, il s'agit de Pemberley, qui est un domaine, donc avec son maître, la nouvelle maîtresse Elizabeth, les enfants, et puis il y a également des dysfonctionnements familiaux, puisque Jane Austen a basé son roman sur la lutte entre l'orgueil et les préjugés, c'est-à-dire la lutte entre deux personnages qui, au départ, se détestent, Elizabeth et Darcy, et se détestent parce qu'ils viennent d'un horizon social complètement différent.
Alors, parmi les thèmes, également le rôle de la nature, parce qu'il y a à la fois ce manoir, ce domaine extrêmement protégé, et autour la forêt, qui est la nature hostile.
On a l'impression qu'il y a des forces obscures qui entourent Pemberley. La mort a lieu évidemment dans les bois de Pemberley. Cette nature est le cadre d'événements qui vont mettre en péril l'ordre social. Et d'ailleurs, cette notion d'ordre social, elle est au cœur, pas seulement des romans de Jane Austen, mais des romans de P.D. James.
Quel est votre sentiment, Françoise du Sorbier, lorsque P.D. James écrit cette suite à Orgueil et Préjugés, est-ce que c'est par jeu littéraire? Est-ce que c'est pour rendre hommage à Jane Austen?
Ah, je dirais que c'est les deux, et puis pour se faire plaisir aussi. Je pense qu'il y a une énorme admiration, et elle le reconnaît. D'ailleurs, elle dit une chose assez amusante dans sa préface. Elle cite un passage de Mansfield Park où Jane Austen elle-même dit « Je laisse à d'autres plumes le soin de s'attarder sur la culpabilité et le malheur. Moi, j'abandonne au plus vite des sujets aussi odieux, impatiente de faire retrouver à tous ceux qui ne sont guère en faute eux-mêmes un confort tolérable et d'en finir avec tout le reste. » Donc, je crois qu'il y a d'abord un hommage. En plus, c'est quand même son dernier ouvrage. Je pense qu'elle savait qu'elle n'écrirait plus très longtemps et elle avait envie de rendre hommage à Jane Austen, qui a été toujours pour elle une référence, un livre de chevet. Il y a un jeu littéraire, bien évidemment, puisqu'elle a pris une situation. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une situation dont elle a exploité les points communs avec son œuvre à elle. Et donc, il y a aussi un plaisir absolument évident, c'est jubilatoire. On voit qu'elle elle cite Jane Austen, qu'elle connaît intimement, qu'elle reprend ses phrases, on voit qu'elle s'amuse beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a une jubilation personnelle et qu'elle y a vraiment trouvé un grand plaisir.
Finalement, elle a accompli un parcours magnifique. Elle a été jusqu'au bout de son destin et elle est partie, je dirais, glorieusement.
À l'extérieur de ce corps, de cette douleur, il y a un monde, pensa-t-elle. J'en reprendrai possession. Je survivrai. Il le faut.
P.D. James, qui a poussé Un petit Dumpty, une émission de Françoise Esteb, avec Delphine Singal, maître de conférences en anglais à Paris 2, Odile Demange, traductrice, Christine Jordis, écrivain, Marianne Payot de l'Express, François Rivière, écrivain, Françoise du Sorbier, traductrice, et la voix de P.D. James, archive INA, Sandra Escamez. Texte lu par Olivier Clavery. Merci à Reda pour son interprétation de Humpty Dumpty, attaché d'émission Claire Poinsignon. Enregistrement Mathieu Tourin, Bernard Laniel, Jean-Michel Bernot. Mixage Jean-Louis Deloncle. Réalisation Marie-Laure Ciboulet.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen. Réécoute, podcast, commentaires et compléments sur franceculture.fr.